nous sommes avec Ren Pratt, l'autrice du précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, Exploser le plafond, qui a été édité donc en octobre 2021. C'est un livre qui est sorti récemment et qui fait suite justement à une montée en puissance des inégalités, malgré certaines mesures du gouvernement. Dans votre livre, vous analysez les mécanismes linguistiques qui ont amené justement une culture de la domination masculine et une culture patriarcale. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces mécanismes-là ?
J'ai effectivement été l'autrice de deux rapports qui m'ont été commandés par le ministère de la Culture en 2005. Donc le premier rapport est sorti en 2006, le deuxième en 2009, sur les inégalités pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde des arts du spectacle. Et j'écris ce livre, j'ai commencé à l'écrire en 2019, donc il sort en 2021, où je reprends cette thématique, mais je l'élargis à toutes les discriminations, puisque, comme on le sait, les discriminations sont liées les unes aux autres, elles s'alimentent les unes les autres, et comme le dit Elsa Dorlin, dont je recommande la lecture, les races et sexes ont une même matrice. Et donc lutter contre certaines inégalités, il faut le faire pour toutes en même temps. Voilà. Alors la question de la langue à laquelle je consacre le premier chapitre de ce livre est une question importante parce que en effet, la masculinisation de la langue française a permis la masculinisation de l'histoire. Et bien évidemment, à partir du moment où on supprime les mots féminins et les formules grammaticales féminines de la langue, ça permet d'éliminer les femmes de l'histoire. D'où l'importance d'en venir à une langue démasculinisée. Donc de réintroduire dans la langue des mots qui ont été interdits, comme le mot « autrice », auquel je tiens beaucoup, qui est le mot pour désigner les femmes qui écrivent, comme auteur de la même racine, et le mot pour désigner les hommes qui écrivent. Or, au moment où on a utilisé le mot actrice, à partir du moment où les femmes ont été autorisées à venir sur des plateaux à jouer la comédie, donc on les a appelées actrices, du verbe acter, donc acteur, actrice, actrice, acteur, l'Académie a interdit l'usage du mot autrice. Donc il est extrêmement important de le réutiliser aujourd'hui. Alors, cette question de la langue, elle porte sur le vocabulaire. Par exemple, poétesse, peintresse sont tous des mots qui ont disparu de la langue, donc il convient de réutiliser, mais les formes grammaticales aussi. Et il y a un exemple que je cite dans le livre qui est on voudrait que satisfaite je le sois, mais en fait non, je ne la suis pas. Et la formule grammaticale correcte, c'est d'accorder avec le féminin. Donc or, on a remplacé toutes les formes féminines par des formes masculines. Et c'est le moyen, comme je le disais, d'éliminer les femmes de l'histoire. Donc, réécrire l'histoire et libérer la langue française, c'est effectivement le premier sujet de ce livre.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça permet aussi à la personne qui va lire votre livre, de prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont inscrits dans notre inconscient collectif et dans la culture même, puisque dans le monde culturel, on est quand même encore dominé par un monde d'hommes blancs, cis, de classe moyenne. Il n'y a pas suffisamment de femmes. Vous dites qu'on devrait obliger la nomination de femmes pour atteindre l'égalité. Est-ce que vous pouvez justement développer cette pensée qui est quand même un petit peu plus radicale, puisque on dit de vous que vous êtes radicalisée à votre corps défendant?
Oui, je dis que je me suis effectivement radicalisée depuis l'écriture de mes premiers rapports, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses à la racine. Et en outre, le terme radicalisé nous a été, pour ainsi dire, volé, puisqu'il est utilisé aujourd'hui dans des cas très spécifiques. Et je crois que ça aussi, c'est un processus de libération de la langue que de se réapproprier des mots qu'on nous interdit parce qu'on les utilise dans un sens extrêmement étroit. Donc je me suis radicalisée sur ces questions. Effectivement, je crois qu'il faut prendre les choses à la racine et analyser plus profondément et prendre des mesures plus coercitive ou plus incitative. Alors, la question des mesures prises par le gouvernement, moi, j'ai rien contre, je trouve que c'est très bien. Simplement, je crois qu'il faut aussi aujourd'hui avoir en tête qu'il y a plusieurs niveaux d'action qui peuvent permettre de transformer les choses. Alors, il y a un niveau politique, donc au niveau du gouvernement, au niveau des élus, dans les collectivités territoriales, par exemple, ça c'est le niveau politique. De volonté politique, il n'en existe pas aujourd'hui. On peut s'en rendre compte, par exemple, si on regarde comment est entouré le chef de l'État d'une bande de boys. Il n'y a pas de femme dans sa garde rapprochée. C'est bien le signe qu'il n'y a pas de réelle volonté politique. En revanche, il y a un affichage politique. L'affichage, c'est déjà quand le gouvernement affiche que l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité réelle, doit devenir une grande cause nationale. Donc ça, c'est un affichage. Cet affichage, qui n'est pas le signe d'une volonté politique, permet aux administrations de prendre de proposer un certain nombre d'outils pour essayer de transformer ces situations inégalitaires, que ce soit en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes, ou d'exclusion des personnes racisées, et de toutes sortes d'autres inégalités, comme la grossophobie, la transphobie, l'agisme, etc. Tout ce qui structure une société capitaliste qui privilégie un système hiérarchisé, un système de différence qui permet des hiérarchies, qui permet donc à ce qu'une catégorie de la population ait tous les pouvoirs et domine les autres. Donc ce système permet, à partir du moment où il y a des mesures au niveau administratif qui sont proposées, si les institutions s'en emparent, ça permet de transformer les choses. Mais si les institutions ne s'en emparent pas, ça ne sert absolument à rien. Alors, je peux donner un exemple d'une institution qui s'est emparée de certaines propositions, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, qui est donc la plus prestigieuse institution de formation au théâtre, de formation de comédiens et de comédiennes, et qui est dirigée depuis quelques années par Claire Lanne. Claire Lanne est une femme qui a été la première donc nommée à cette direction depuis que cet organisme existe au XVIIe siècle. Et elle s'est emparée d'une proposition du ministère de la Culture qui est d'élaborer et d'adopter des chartes pour l'égalité et la diversité dans les établissements d'enseignement supérieur culture. Et dans cette charte, elle propose que la notion d'emploi, c'est-à-dire les types de rôles, la jeune première, le jeune premier, le barbon, etc., que cette notion soit définitivement abolie et que les candidats qui se présentent pour passer le concours, pour entrer comme élève au conservatoire, puissent se présenter comme hommes, femmes, non-binaires, autres, ce qu'ils veulent. Alors, ça a une incidence forte, c'est-à-dire qu'à partir de là, n'importe qui peut interpréter n'importe quel rôle. On sort donc des conventions et des normes qui veulent qu'un rôle de jeune première ne peut être interprété que par une femme qui soit jeune, qui soit blanche, qui soit mince, et ce qui prive toute personne qui ne correspond pas à ce profil de jouer les rôles de jeune première, c'est-à-dire les rôles d'amoureuse. Ce qui veut dire qu'une personne grosse ne peut pas être amoureuse, par exemple. Donc ces représentations proposées par le théâtre, mais aussi par les arts plastiques, enfin par tous les arts subventionnés par le ministère de la Culture, font que une grande partie de la population ne peut pas se reconnaître dans ces représentations. Donc cette institution, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, s'est emparée de cette proposition et transforme les choses au sein du Conservatoire. Donc ça, c'est un autre niveau qui est absolument nécessaire pour que les mesures proposées par les administrations servent à quelque chose. Après, il y a aussi ce que les individus, collectivement ou individuellement, peuvent faire. Par exemple, je conseille maintenant aux élèves des écoles d'art de réclamer que leur professeur, j'étais dans une école d'art récemment, où un professeur d'histoire du cinéma n'a jamais évoqué le nom d'aucune réalisatrice. Donc, je disais aux élèves, de toute façon, il a sa totale autonomie pédagogique, donc sa hiérarchie ne peut pas intervenir. Par contre, les élèves peuvent aller le voir en lui disant, monsieur, nous avons besoin d'une histoire du cinéma complète, pas seulement de la moitié. Donc nous exigeons que vous nous appreniez aussi l'histoire avec toutes les réalisatrices qui ont été à l'origine du cinéma et qui ont produit et réalisé des films depuis les débuts du cinéma. Et si vous ne le faites pas, on va être obligé de réclamer d'avoir un professeur ou une professeuresse qui nous enseigne l'autre moitié de l'histoire du cinéma.
Le CNC a adopté un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, puisque les aides du CNC sont conditionnées à la formation des directions à cette problématique-là, donc qui est la prévention de des violences sexistes et sexuelles. Roselyne Bachelot a récemment, le 25 novembre, justement le jour de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, annoncé un plan de plus grande envergure dans le spectacle vivant. Elle répond à cette problématique par des mesures, donc un petit corpus de mesures, obligeant les structures culturelles qui ont des aides du ministère à former leurs dirigeants et mettre en place tout un système d'action qui font partie aussi, je pense, des outils pour pouvoir atteindre ce graal de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces mesures-là qui sont mises en place pour les structures culturelles dépendantes du ministère, mais pas forcément pour les autres structures?
C'est sûr que les mesures proposées par le ministère de la Culture ne valent que pour les établissements et les associations, les structures qui dépendent de sa responsabilité et de sa tutelle. Je pense bien évidemment que ces mesures sont extrêmement importantes, comme je le disais, comme les chartes pour l'égalité, comme toutes les mesures que prend le ministère de la Culture. Elles sont indispensables, mais elles ne seront utiles que si les institutions s'en emparent réellement et les mettent en œuvre de manière correcte. Parce que c'est pas une formation de 3 heures qui va permettre de changer la tête, le contenu et les manières de penser de gens qui, depuis la naissance, ont été élevés pour penser qui sont supérieurs à la plupart, déjà à la moitié de l'humanité, plus quelques autres qui sont pas de la même couleur. Voilà. Donc oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce genre de mesures et j'invite surtout à ce qu'on puisse s'en emparer et j'invite aussi à ce que individuellement chaque personne qui est victime, mais même pas d'une violence grave, mais du moindre geste ou parole inapproprié, s'insurge, refuse, et que toutes les personnes qui en sont témoins s'insurgent aussi contre ces manières de faire, qui restent extrêmement prégnantes dans ce monde de la culture, dont ceux qui n'en font pas partie s'imaginent que c'est un monde particulièrement libéré, à l'avant-garde. Et je démontre, déjà j'ai démontré dans mes premiers rapports, mais je le redis de manière plus précise dans ce livre, c'est un monde extrêmement réactionnaire, normé et qui, comme d'ailleurs le vocabulaire utilisé dans ce monde l'indique, n'est pas du tout un monde de création, d'invention et d'imagination. Les élèves sont formés dans des conservatoires. C'est un monde qui est régi par des conventions, par des normes, par des codes et qui font que on n'est pas vraiment dans l'invention d'un monde différent.
D'autant plus que les comportements inappropriés sont banalisés, tolérés, voire justifiés aussi. Hein, quand on pense à certaines affaires qui ont éclaté au grand jour, il est vrai que c'est quand même assez incroyable de dire au nom de la liberté artistique du créateur, il a le droit d'abuser des actrices. Et ça, c'est quand même un travail qui est difficile, qui demande vraiment de remodeler toute la pensée même des nouvelles générations finalement et de leur donner des pistes pour pouvoir développer des outils et arriver à prendre conscience de ces problématiques-là.
Alors sur ce point qui est extrêmement important, alors je consacre un chapitre que j'ai intitulé « Liberté de création, mais de quoi parle-t-on ?» Ce qui est très grave, c'est que c'est pas seulement les nouvelles générations. Je crois que les nouvelles générations, elles ont compris. Dans toutes les rencontres que je fais autour de ce livre, je vois des jeunes femmes et quelques jeunes hommes qui ont tout à fait compris, qui sont tout à fait conscients. En revanche, au niveau du ministère de la Culture, je dirais que on régresse. En 2016, le ministère de la Culture a fait adopter une loi qui s'intitule étrangement « Loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine ». Donc, on ne voit de la partie qui concerne la création artistique, ce qu'on appelle encore la création artistique, que je conteste aussi, on ne parle que de cette liberté de création, la liberté accordée au créateur. Et ce qui est expliqué aussi par l'Observatoire de la liberté de création, qui est une émanation de la Ligue des droits de l'homme, c'est que la liberté de création donne des droits beaucoup plus larges que ceux donnés par la liberté d'expression qui est accordée à toute citoyenne et à tout citoyen. La liberté d'expression veut bien dire ce qu'elle dit, c'est que toute citoyenne ou citoyen est libre de faire part publiquement de ses pensées, de ses avis, et de s'exprimer librement, sauf à partir du moment où ça vient contredire la liberté ou le bien-être de quelqu'un d'autre. Eh bien, la liberté de création, prétend-on, s'exerce sans aucune contrainte. Donc là, je crois que c'est extrêmement grave. Et ce qui va avec cette idée, il y a celle de distinguer, comme on le dit, l'homme de l'artiste. Alors l'artiste va être consacré, même si l'homme a violé des petites filles, et ça n'empêchera pas qu'on accorde un cinquième César à Roman Polanski, citons-le, et pas pour sa gloire mais pour sa honte. Il a un cinquième César, alors qu'on sait très bien qu'il est toujours poursuivi. Alors on me dit, il n'est pas poursuivi en France. Oui, mais en France, nous sommes dans le pays de la liberté, de l'exception culturelle et de l'exception sexuelle. Donc oui, il n'est pas poursuivi en France. Mais justement, c'est un problème. En tout cas, c'est un problème, non pas que on l'accueille en France et qu'on le laisse vivre tranquille, mais c'est un problème quand on fait gloire à son nom et à ses œuvres. Parce que quand on fait gloire à ses œuvres, je suis désolée, mais c'est lui, l'homme, que l'on glorifie.
Ça participe en plus de la continuité de cette problématique-là, et qui est une problématique qui amène aussi encore plus de discrimination, puisque vous parliez de la grossophobie, tout ça, et vous avez une belle définition du féminisme. Par féminisme, vous entendez toute femme ou tout homme ayant vécu ou étant consciente des violences exercées quotidiennement contre les femmes, les gays, les lesbiennes, les trans, et luttant contre ces violences et contre toute forme d'inégalité. Donc vous incluez les racisés, les personnes non-binaires, les personnes... Et c'est une définition qui va au-delà de la définition stricto sensu du féminisme de base, qui permet justement d'apporter un éclairage sur la lutte contre les inégalités, qui est une lutte qui est beaucoup plus vaste, qui n'est pas justement une lutte seulement pour l'inégalité homme-femme, mais aussi toutes les femmes et certains hommes aussi. Donc vous avez quand même une pensée qui est au-delà de la pensée binaire. Ça se voit aussi dans la façon dont vous développez les problématiques, où vous essayez d'avoir un petit peu dans la contradiction, un dépassement de ces contradictions-là. Et c'est une méthode qui est quand même assez philosophique.
Peut-être, alors je ne suis pas philosophe ni sociologue d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est en travaillant, en lisant beaucoup d'autrices et quelques auteurs qui travaillent sur ces questions, et c'est vrai que ce livre associe beaucoup d'autrices et d'auteurs, et je fais beaucoup de citations parce que je pense que sa pensée, la pensée que chacun peut avoir, s'alimente et s'enrichit de la pensée des autres. Et donc les citations que je fais, elles s'articulent à mon texte, et mon texte est enrichi par ces citations-là et dans toute leur complexité. Et je crois qu'effectivement on est dans une problématique extrêmement complexe, mais en même temps, une fois qu'on tire un fil, ça devient assez simple de découvrir, de prendre conscience de ces situations et des méthodes que l'on peut employer chacune et chacun pour transformer ces situations. Moi, je n'ai jamais pensé qu'on puisse être féministe sans être antiraciste, anti toute discrimination. Et j'ai mis un peu de temps, il a fallu que je lise Françoise Vergès notamment, qui nous explique comment il y a un féminisme blanc occidental qui ne prend prend pas en compte les problématiques spécifiques des féministes racisées, des féministes qui vivent dans d'autres cultures et féministes blanches qui s'imaginent pouvoir dire aux autres ce qu'il faut qu'elles fassent et comment il faut qu'elles organisent leur lutte. Or, les autres n'ont pas attendu pour s'organiser et il est temps, me semble-t-il, que le dialogue s'instaure et que nous puissions être toutes et les quelques-uns qui veulent bien unis dans nos différences pour transformer un monde qui ne nous convient pas.
Et l'intérêt de votre livre, justement, c'est qu'il permet, pour reprendre une expression de Kant, de nous réveiller de notre sommeil dogmatique.
Oui, on peut le dire comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Je crois que grâce aussi à toutes celles que je cite, il nous aide à penser. Et à aller encore plus loin. De toute façon, depuis qu'il est sorti, moi, je suis déjà allée encore plus loin dans la manière de réfléchir à toutes ces questions.